Bienvenue à tous sur Radio Judaïque à Lyon. Tout de suite, entre vous et moi, présenté par Patricia Drey. Bonjour Patricia.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire consacré essentiellement à la littérature, mais pas seulement, vous le verrez. Aujourd'hui, dans un instant, j'aurai le plaisir de recevoir Hélène Romano. Hélène Romano, docteur en psychopathologie, psychothérapeute et psychologue clinicienne, pour la parution de son dernier ouvrage paru chez Odile Jacob, intitulé « Quand la vie fait mal aux enfants », le sous-titre « Séparation ». Deuil, attentat, un sujet grave que nous aborderons avec Hélène Romano dans un instant. Tout de suite après la chronique de Nicole Skinazy-Teboul, vous savez, chaque semaine, Nicole consacre cette chronique à l'histoire d'un mot en relation avec le titre du livre que l'on vient d'évoquer. Et aujourd'hui, Nicole n'a pas pu choisir. Elle a décidé de traiter les trois mots du sous-titre, séparation, deuil et attentat. Dans la deuxième partie de notre émission, dans l'air du temps, aujourd'hui, je recevrai un invité en studio, Jacques Assouline, qui est le fils du rabbin Assouline, il y aura une cérémonie, de remise de médaille des justes qui se tiendra dimanche prochain, 21 janvier, à monsieur Albert-Émile Routier, l'ancien consul de Turquie à Lyon, qui a permis le sauvetage de la famille Assouline, notamment, et d'autres familles également, durant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, pour terminer cette émission, je vous parlerai des prochains rendez-vous, la conférence de Gilles Bernheim à l'Espace Hillel, et évidemment, la nuit de la théologie, prévue et programmé par la Villa Gilet le jeudi 25 janvier. D'ailleurs, j'aurai très certainement la semaine prochaine le plaisir de recevoir le directeur de la Villa Gilet, Guy Walter. Mais tout de suite, comme promis, notre invité. Bonjour Hélène Romano.
Bonjour.
Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes docteur en psychopathologie, psychothérapeute et psychologue clinicienne, je le rappelais il y a un instant. Vous exercez depuis plus de 20 ans. Autant dire que vous avez accompagné et pris en charge des centaines de patients et notamment parmi ces patients, les enfants. Nos auditeurs ont certainement eu l'occasion de vous voir et de vous entendre car vous êtes régulièrement invité sur les plateaux télé et les radios pour notre plus grand plaisir et pour évoquer les traumatismes chez l'enfant, notamment et particulièrement depuis la survenue des nombreux attentats de ces dernières années. Vous avez écrit un certain nombre d'ouvrages, plus de 10 je crois, c'est ça ?
Une trentaine, non.
Ah, une trentaine ? Ah d'accord, on parle d'une douzaine chez Odile Jacob.
Je me référence tout, il y a 30 ouvrages.
Ah d'accord, ok. Et ces ouvrages sont, et celui-ci ne fait pas exception d'ailleurs, ces ouvrages sont le fruit de votre pratique professionnelle quotidienne. Alors dans ce dernier ouvrage, « Quand la vie fait mal aux enfants », vous abordez une question douloureuse qui nous concerne tous, le traumatisme de l'enfant suite à un choc, que ce soit une séparation, un deuil ou malheureusement un attentat. Ma première question est à la fois simple et très compliquée. Hélène Romano, comment rassurer un enfant blessé, malade ou traumatisé ?
Une chose qui serait très simple, c'est de dire qu'il ne sera jamais seul au monde.
Oui.
Ça peut paraître évident, mais quand on est soi-même adulte blessé, traumatisé, angoissé ou totalement perdu par rapport à une situation, et quand on est face à quelque chose de traumatique pour soi-même, pas forcément pour les autres, mais en tout cas pour soi-même, le parent, il n'est plus forcément très protecteur psychiquement pour son enfant. Mmh. Donc pouvoir lui dire qu'on est là, qu'on l'abandonnera jamais, qu'il sera jamais seul au monde. Ça, c'est absolument fondamental. S'il y a une chose à dire, ça serait ça. Parce que ce que j'essaye dans ce livre d'y expliquer à partir de très nombreux exemples, vous l'avez dit, moi ça fait 25 ans que je suis thérapeute, donc oui. Les enfants j'en ai pris en charge.
Oui, on imagine.
C'est que certaines fois, des traumatismes qui pour l'enfant ne le sont pas pour les adultes, et les adultes peuvent avoir tendance à banaliser, oui. Parce que l'enfant ne va pas réagir comme l'adulte. Donc il peut, par exemple, pour une séparation qui peut paraître acté comme quelque chose, je ne vais pas dire d'habituel, mais qui peut arriver maintenant par rapport à quelques années précédentes, ou un changement d'école, ou un déménagement, les parents souvent ne vont pas percevoir la détresse de leur enfant, alors que pour l'enfant, ça résonne en termes de oui. perte, d'angoisse de perte, et ça peut vraiment l'effondrer, pas forcément, mais ça peut l'effondrer. Oui. Donc l'idée oui. de ce livre, c'est vraiment d'aider les parents à savoir comment être, quels mots dire, comment faire pour réassurer son enfant pour des petites choses pour l'adulte, mais qui sont des fois des grands traumas pour l'enfant.
Vous dites quelque chose de très juste et de très vrai. Il ne faut jamais sous-estimer la peine ou la douleur d'un enfant blessé. Effectivement, c'est une question de perception. Pour un adulte, un événement ne semblera pas absolument terrible, alors que pour un enfant, aussi suivant son âge, hein, bien sûr, cela paraîtra quelque chose d'insurmontable.
Tout à fait. Et dans l'ouvrage, à différents moments, encore une fois, l'objectif, c'était de faire quelque chose de très pratique pour oui. les parents, parce qu'on leur dit souvent, faut parler aux enfants, faut les aider. Mais bon, on leur dit pas comment, là. L'idée, c'était vraiment de les aider à donner les mots. Pour les parents, certaines fois, il y a à la fois pas la perception que l'enfant ressent les choses de façon dramatique, et puis surtout la difficulté parce que l'enfant ne va pas exprimer sa détresse, sa souffrance psychologique comme un adulte. Et très souvent, les enfants, surtout les petits, vont avoir tendance à vouloir réassurer les adultes, donc à faire comme si tout va bien. Ouais. À jouer, à avoir l'air de, alors qu'ils viennent de perdre leur papa, alors qu'ils viennent de perdre leur petit frère, à faire comme si de rien n'était, à rigoler, ce qui nous agace derrière les parents, les parents survivants, et qui ont tendance à dire, bon, bah, l'enfant est pas touché, ça sert à rien de lui dire. Alors que l'enfant prend sur lui, et en thérapie, nous l'explique bien, il prend sur lui pour pas blesser encore davantage son parent.
C'est ça.
Donc, c'est vraiment ce décryptage-là qui est important.
Oui, c'est lorsque vous évoquez justement ce genre de situation, Hélène Romano, je pensais à un terme que j'ai appris il y a quelques années, qui est la parentification, c'est-à-dire le fait pour un enfant de protéger son parent, de s'enfermer peut-être dans une espèce d'attitude réconfortante pour le parent et qui doit alerter, j'imagine.
Alors, ça doit alerter, vous avez raison, il y a ce terme-là, il y a le terme de faux self, c'est-à-dire un enfant qui est hyper adapté, comme si de rien n'était. C'était passé, un enfant qui revient du tsunami, qui a perdu ses parents, sa sœur, qui revient, qui rigole, qui continue de faire comme si de rien n'était. C'est pas du tout une attitude adaptée par rapport à l'aurore qu'il a vécue. Et ça doit vraiment nous permettre de lui offrir un espace pour sortir son chagrin, parce que probablement que cet enfant a tellement peur que le monde extérieur s'effondre encore, qu'il prend sur lui une force de vie incroyable, et qui est très coûteuse physiologiquement, qui est très coûteuse physiquement, et qui certaines fois entraîne des effondrements plus tard, à l'adolescence, quand ces enfants deviennent eux-mêmes parents et que leur enfant est à l'âge qu'ils avaient. Et là, tout d'un coup, ils s'effondrent, ils comprennent pas, et quand on prend en charge, on se rend compte, bah oui, leur enfant a 5 ans, mais eux, quand ils avaient 5 ans, ils ont fui un pays en guerre, ils ont perdu un parent, ils ont eu une rémission de cancer, enfin des choses dramatiques qui ont été un peu banalisées parce qu'ils étaient petits et parce qu'ils ne se sont pas effondrés comme les adultes. Donc l'objectif du livre, encore une fois, c'est de permettre ce décryptage, parce que trop souvent on entend un petit peut pas être touché par la mort, un petit peut pas être touché par la maladie, il faut pas lui dire, il va être traumatisé, alors que c'est le contraire. Moins on lui dit, plus il théorise, plus il théorise, plus il perd confiance dans l'adulte, et c'est ce que je décris, c'est des enfants orphelins. Il n'y a plus de lien protecteur avec l'adulte.
Oui, c'est ça. En fait, il faut permettre à l'enfant d'exister par lui-même et de redevenir sujet de sa vie et non plus objet, finalement.
Voilà, tout à fait. Et de rester à hauteur d'enfant. C'est-à-dire, on peut lui demander des choses. Par exemple, vous parliez de parentification, c'est très juste. Quand on a un enfant malade, bah, souvent, on va être plus exigeant avec les autres enfants pour qu'ils soient autonomes. Ou quand un parent décède, des fois même, l'entourage dit, maintenant, c'est toi l'homme de la maison. Maintenant, c'est toi le grand. Ouais. Et il faut qu'on fasse attention pour les adultes, parce que même si on les projette là-dedans, ils ont quand même le droit à l'innocence de l'enfant, au sens qu'ils ont le droit à leur vie d'enfant et à être considérés comme des enfants.
Bien sûr. Et ce livre est vraiment formidable, je vous le dis très sincèrement, Hélène Romano, parce que il donne des pistes et des réflexions, des sujets de réflexion pour les parents confrontés, quels qu'ils soient d'ailleurs, pour les parents confrontés au traumatisme de l'enfant. Vous dites, ce livre est consacré aux enfants blessés par la vie, qu'il s'agisse d'événements en apparence sans trop d'importance, comme on l'a dit, pour les adultes, ou d'événements traumatiques et reconnus comme tels. Et hélas, l'actualité nous a donné depuis quelques années de nombreux sujet de réflexion suite aux attentats, parce que les enfants sont également victimes. Ceux, bien sûr, qui sont lors des attentats, qui sont touchés dans leur chair, mais également, vous parlez à plusieurs reprises de l'incidence des télés d'information en continu, les chaînes d'infos en continu auxquelles sont confrontés les enfants, et ça, c'est terrible aussi, vous en parlez.
Ce qui est terrible, c'est de pas laisser d'adulte à côté.
Bien sûr.
L'adulte, des fois, il est présent matériellement, physiquement. Oui. Mais justement, ce que je décris comme l'orphelin, l'orphelin, c'est l'adulte qui va être là, mais qui va pas aider l'enfant à décrypter. Des fois, qui va pas éteindre la télé. Mm-hmm. Mais on peut être aussi fasciné quand il y a des drames comme ça. C'est très compliqué d'éteindre. Mm-hmm. Et même si vous éteignez chez vous, votre gamin, peut-être qu'il va à l'école ou chez des copains. Donc, faut vraiment éduquer à l'image et que le parent puisse dire à l'enfant ce que tu vois. C'est des choses, qui restent des actes, parce que les attentats sont des actes de guerre. Il y a la guerre dans d'autres pays. Nous, on a des actes de guerre. Donc, c'est aussi la réalité. Mais si jamais on était dedans, si jamais il se passait quoi que ce soit, tu ne serais pas seul. C'est ça qui est très important.
Rassurer, toujours rassurer l'enfant.
en essayant d'éviter de lui mentir pour le protéger. Je prends un exemple de parents que j'avais rencontrés dans le 10e arrondissement après les attentats de Charlie, qui avaient dit à leur enfant « plus jamais ça, t'inquiète pas, les méchants ils sont morts, plus jamais ils reviendront ». Et puis moins d'un an après, il y a des attentats.
Ça c'est terrible. Bataclan.
Ouais, terrible. Et la première réflexion des enfants, ça a été de dire « mais tu nous as menti ».
Oui, oui. La confiance est remise en cause là, la confiance dans l'adulte.
Tout à fait. Et ce qui est important, et ce que je décris à de nombreux endroits dans l'ouvrage, c'est comment on parle à son enfant. Bah, pouvoir lui dire moi j'espère que plus jamais ça. Et c'est le jeu. J'espère de tout mon cœur que plus jamais ça. Il y a les policiers, il y a les gendarmes, on décrit ce qui se passe, on décrit pourquoi il y a les sacs qui sont fouillés, pourquoi il y a les militaires dans la rue, pourquoi il y a tout ça. On explique à l'enfant, mais voilà, la vie, par cette résilience collective, la vie, elle est aussi faite de souffrance. C'est la mort fait partie de la vie, il faut qu'on réapprenne. Et nos enfants vont dire, c'est aussi leur donner les ressources. Quand ça va pas...
Intimement lié à la mort, il y a la maladie, il y a la souffrance, les épreuves que nous connaissons tous hein, tout au long de nos vies. Et on a tendance à surprotéger nos enfants et à peut-être les élever.
Des horreurs de la vie,
bien sûr, les protéger. Évidemment.
Projeté dans le monde adulte très tôt par ces images, parler des séparations. Oui. Qu'est-ce qui fait souvent traumatisme pour les enfants? Là, j'ai vu un jeune adulte de 23 ans qui ne va pas bien du tout, qui a des conduites addictives, hein, plein de troubles de ce type-là, qui prend beaucoup trop d'alcool. Et en fait, qui a été très traumatisé par le divorce de ses parents, qui a lieu quand il avait 5 ans, pas tant par la séparation, parce que les parents discutaient et pour lui c'est un soulagement, mais par le fait que les parents de part et d'autre les prient en otage de leur règlement de compte parental. Ta mère, elle est comme ci, ton père, il est comme ça. Et c'est ça qui l'a traumatisé, c'est-à-dire cette attaque de l'autre parent par l'autre parent. Et les deux ont fait ça, et ce qui fait, c'est ça être orphelin, c'est avoir un père, une mère d'accord, mais puis un papa-maman protecteur. On peut se séparer, mais en dehors des situations de violence conjugale qui existent, qui sont particulières, quand on se sépare parce qu'on n'aime plus, on s'aime plus, on n'a pas à en faire payer le prix à son enfant, à prendre en otage.
Exactement.
C'est bien de le rappeler. Ça peut faire un vrai traumatisme. Et l'idée du livre, c'est de pouvoir expliquer aux adultes, ben voilà, vous discutez. Pour vous, c'est pas traumatique, c'est pas forcément traumatogène au sens de vous blesser durablement. Mais pour votre enfant qui vous entend, qu'entend les discussions des audiences du juge, qu'entend les discussions d'argent.
Ça peut avoir des incidences sur sa vie future, sa vie d'adulte même, hein. Vous le dites, 23 ans, ses parents.
Tout à fait. Et sur quelque chose qui, pour les parents, parce que du coup, ils sont pas dans un déni, mais ils comprennent pas. Il était petit, il a dû oublier. Ben non, il a pas oublié. L'enfant devenu grand, et c'est ça, quand la vie blesse l'enfant. Mm-hmm. Et c'est ce que j'explique à de nombreuses reprises dans l'ouvrage. C'est des fois des petits traumas pour l'adulte qui peuvent devenir des grandes blessures traumatiques pour l'enfant. Quand il s'est senti abandonné psychiquement, psychologiquement par son parent, c'est-à-dire pas compris, pas éduqué à hauteur d'enfant, à son niveau à lui, projeté dans des préoccupations qui n'étaient pas les siennes, et lui devenu adulte, il n'arrive pas à avoir des relations stables avec une femme, il n'arrive pas à se débarrasser de ça dans sa tête, il est resté ce petit garçon qui souffre, et pour éviter ça, il boit.
Et voilà. Vous nous rappelez que le rôle du parent ou de l'adulte responsable, en tout cas, est de protéger l'enfant. C'est une mission essentielle du parent, des parents que nous sommes. Et c'est vrai, la difficulté, Hélène Romano, c'est que c'est le métier, entre guillemets, enfin, on peut parler longuement, c'est un métier, une mission qui nous est dévolue, mais en tout cas, le métier de parent, c'est le plus difficile, le plus terrible qui soit et le plus merveilleux, évidemment. Mais en même temps, c'est le seul qu'on n'apprend pas. On apprend avec ses enfants, finalement, à être parent.
Voilà. Ça peut être aussi, vous l'avez dit, de très très merveilleux moments. Être parent, c'est aussi être là quand ça va pas, comme votre enfant. Bon, c'est être là tout le temps. Et je cite dans l'ouvrage à un moment donné une maman qui perpète en parlant de sa maternité, comme si c'était une condamnation. Oui, on est parent à vie.
Ouais.
Et ça, c'est aussi quelque chose que dans notre société de l'immédiateté, de l'urgence, de l'obsolescence, certains parents oublient, c'est que leur enfant, il aura besoin de toute sa vie, un papa, une maman, on en a besoin toute sa vie. Quand on en a manqué, on sait à quel point c'est compliqué. Alors, on peut avoir des tuteurs ou orphelins, mais c'est pas pareil, c'est difficile, c'est douloureux de pas avoir un papa, une maman qui vous protège. Alors, c'est vrai qu'être parent, c'est protéger, réassurer, valoriser, aimer, bien sûr, mais vous avez des parents, par exemple, qui sont surexigeants avec leur enfant, qui vont vous dire qu'ils les aiment, mais ils les aiment pour eux-mêmes. Ils les aiment comme des mini-moi. Parce que l'enfant doit être gratifiant pour eux. Il doit être très bon à l'école, très bon en sport. Ou les parents incestueux vous diront qu'ils aiment leur enfant. Vous voyez, il faut être prudent aussi sur le terme amour.
Bien sûr.
Mais protéger psychologiquement, c'est-à-dire être là, malgré tout, même quand ça va pas, c'est ça être parent. Et c'est pour ça que, Freud disait c'est un métier un peu de tout le monde. Moi, j'utilise le terme plutôt aventure, parce que ça se co-construit à deux, en fait.
Exactement.
On apprend à être parent avec notre enfant.
Ouais.
et notre enfant apprend aussi à être enfant grâce à nous. Et si l'enfant il a pas son papa, sa maman psychiquement pour l'aider, c'est pas possible, mais c'est plus douloureux, c'est plus difficile.
Ouais, plus difficile. Je vous ai vu dans une émission hier sur France des 13 enfants, oui. Donc une fratrie de 13 enfants maltraités, enchaînés, mal nourris par des parents. Voilà, on se dit mais comment ces parents peuvent-ils dire qu'ils aiment leurs enfants? Ça paraît tellement monstrueux que comment vous, la professionnelle, vous abordez ce genre de situation qui reste heureusement bien sûr marginale, mais qui frappe vraiment les parents que nous sommes et les individus que nous sommes.
En tant qu'expert, moi j'ai évalué deux enfants qui parce qu'en France on a une situation d'une famille séquestrée à Saint-Nazaire, oui. Et la mère était séquestrée aussi, ce qui est un petit peu différent de là. Elle participait pas aux maltraitances, aux violences. Et puis deux situations d'enfants seuls, il n'y a pas la fratrie. Et là, la fratrie, c'est ce que je décris aussi dans l'ouvrage, peut être une vraie source de résilience. Oui. C'est probablement ce qui a permis au plus grand qu'à 29 ans de tenir, et à ses enfants de tenir et de pas de se laisser mourir. Ça a probablement été cette aide fraternelle, ces liens fraternels. Oui. Donc, en effet, c'est pour ça que je disais l'amour. Ces parents-là vont vous dire qu'ils aimaient leur
enfant. Bien sûr, bien sûr.
Donc, l'amour, on voit bien qu'il peut être très perverti, peut-être des parents pervers, ils mettent pas derrière le mot amour la même chose que des parents narcopathes. Oui. Qui protègent leur enfant. Donc ces situations-là, c'est des situations de maltraitance qui montrent bien que le parent, à partir du moment où l'enfant devient un objet, et d'ailleurs il y avait ces photos, objet numéro 1, objet
c'était
numéro
terrible.
2,
oui, c'est terrible.
L'enfant indifférencié, habillé pareil, même coupe de cheveux, enfin quasiment la même taille parce qu'ils ont tous des retards de croissance, même coupe de cheveux, que le pété comme des objets par les parents, et à partir du moment où l'enfant, des fois réfléchir à son devenir parent, on ne fait pas un enfant pour se réparer. Oui. On ne fait pas un enfant avoir sa propre autonomie, sa propre vie. C'est pas un mini-clone. Mmh. Et la pathologie extrême conduit à des cas comme celui-ci, à des maltraitances, parce que l'enfant, qui a pu être gratifiant, il va être rejeté par le parent. Mmh. Alors, il peut être rejeté par des agressions sexuelles, physiques, par des mots, par des gestes, mais il peut être rejeté, c'est ce que je décris dans les orphelins, encore une fois, c'est un terme qui forme et qui est important à comprendre. C'est des parents qui sont très présents matériellement. Les enfants sont dans des environnements très choyés financièrement. Ils ont les dernières DS, les dernières TIF. Il n'y a pas de problème financier, parce que c'est aussi une représentation qu'on peut avoir de familles précaires maltraitantes. C'est pas toujours le cas. Mais les parents, psychiquement, ne sont pas là. C'est la DS, c'est la télé qui éduque l'enfant. Oui. C'est la télé qui rassure l'enfant le soir pour l'endormir. Et le parent n'est pas là psychologiquement.
C'est ça, ouais.
Et le parent, c'est lui qui doit être là, parce que c'est lui qui transmet l'attention à l'autre, l'altérité, qui apprend l'empathie, qui apprend l'intimité, qui apprend le respect de l'autre. Et s'il n'y a pas ça, les enfants pour grandir, c'est beaucoup plus compliqué.
Oui, très certainement, des traumatismes qui les suivront une bonne partie de leur vie. Vous utilisez une expression, Hélène Romano, qui veut tout dire, à mon avis, c'est fracture de vie, pour évoquer ces séparations, ces deuils, ces attentats, ces traumatismes finalement vécus par l'enfant. Expliquez-nous un petit peu, si vous voulez bien, ce terme, fracture de vie.
Oui, dans les ouvrages que j'écris, je pars beaucoup de ma pratique clinique,
bien sûr,
praticienne, je donne beaucoup d'exemples et d'expressions. Je l'avais fait aussi dans un ouvrage consacré aux attentats qui s'appelait Après l'orage, qui est un album pour parler entre enfants et parents des attentats, de parler justement de termes d'enfants. Et la fracture, c'est un terme qu'un enfant avait utilisé une fois en disant « mon cœur, il est fracturé en deux ». Et fracture, alors moi je serais dans le monde médical, ça parle beaucoup, c'est une cassure. Alors ça veut dire qu'on peut réparer au sens de on peut reconstruire quelque chose, mais ça ne sera jamais comme avant.
Oui.
Alors dans l'ouvrage, je dis on répare pas une enfance qui a été fracturée, qui a été massacrée, on l'apprivoise, on apprend à vivre avec, on peut apprendre à vivre et à être heureux, et c'est la résilience, apprendre à vivre et à faire des choses merveilleuses en ayant ses blessures d'enfance, mais on répare pas, c'est-à-dire l'ardoise magique, il s'est rien passé, il n'y a pas eu de fracture, c'est pas vrai.
Possible, ouais.
C'est pas possible. Et pas être dans le déni, c'est aussi ça qui va aider l'enfant à bien grandir, c'est-à-dire reconnaître, t'as vécu des choses atroces, t'as vécu des choses horribles. Ça, c'est le passé, on le dénie pas. On va pas dire que ça ne s'est pas passé. Maintenant, comment on va pouvoir t'aider pour avancer avec ça, malgré ça, apprivoiser cette douleur-là pour te permettre de te construire en tant qu'adulte. Parce qu'on a une vie Et cette vie-là, il faut qu'elle soit la plus belle possible. Donc, l'objectif de l'ouvrage, c'est de permettre aux parents, puis aux adultes, aussi aux professionnels qui s'occupent d'enfants, par des petits mots, des petits gestes, des petites attentions, de savoir comment être, comment faire avec l'enfant qui est blessé, comment lui parler, comment repérer les signes qui ne sont pas, et comment l'aider malgré tout à avancer sur le chemin de la vie.
Vous évoquez également, bien sûr, un sujet qui nous tient particulièrement à cœur ici, c'est le traumatisme en héritage, les liens intergénérationnels et transgénérationnels pour les anciens déportés de la Deuxième Guerre mondiale qui, malgré eux, ont transmis ce traumatisme parfois à la génération suivante ou celle d'après encore. Il y a eu des livres écrits, des études faites et menées sur ce sujet qui sont assez terribles à lire.
Alors,
également.
Alors, malgré eux, je voudrais peut-être mettre un petit bémol. Je pense que les survivants de la Shoah ont eu à supporter, à subir le déni, c'est-à-dire l'interdit de penser des autres. Et le malgré eux a été surtout lié au retour des autres. C'est-à-dire que la société, en tout cas en France, ne voulait pas en entendre parler.
N'était pas prête.
Ne voulait pas se remettre en cause. Il y a eu quand même beaucoup de Français collaborateurs ou qui ont laissé faire.
Donc
revenir des camps en disant il s'est passé ces horreurs, c'était pas entendable. Donc ce qui fait que la condamnation au silence, à l'interdit de penser, à l'interdit de témoigner, a été tellement forte de la part de ceux qui ont essayé, qu'il y a eu cette génération qui se dit ok, on n'en parle plus. Et c'est pour ça que il y a eu beaucoup d'ouvrages, pense à ceux de Yoram Mouchnik ou à d'autres, d'études qui ont été faites, où la première génération qui est revenue des camps n'a pas pu. La société française n'a pas été en capacité de leur offrir cet espace-là, de parler, de s'exprimer. Et du coup, quand les traumatismes sont retenus, il y a un moment donné, ils peuvent un peu comme un poison continuer de blesser la personne et puis ressortir. Après les attentats de Paris, moi j'ai pu rechercher une dame qui avait été déportée quand elle était toute petite, qu'on n'avait jamais parlé. Et à l'occasion des attentats, 70, 73, elle en a parlé.
Ça a rejailli.
Donc, ça a rejailli à ce moment-là. C'était le moment. Mais voilà, elle m'a dit, j'ai fait ma vie sans en parler. Je savais que c'était là. Elle avait toutes les traces sur son corps. Mais voilà, j'en parlais pas. Et voilà, la parole est devenue possible. Donc, en effet, il y a eu cet interdit de penser, mais la responsabilité, moi, je la mets sur le compte de la société française et des responsables politiques de l'époque.
Oui, tout à fait. On parlerait des heures avec vous, on vous écouterait des heures. Hélène Romano, vous avez vraiment une capacité à nous rassurer et à nous conseiller. Ce livre est absolument formidable. Je le conseille vivement à nos auditeurs. Quand la vie fait mal aux enfants, séparation, deuil, attentat. C'est paru chez aux éditions Odile Jacob. Les excellentes éditions Odile Jacob qui nous proposent des livres tout à fait remarquables. Et celui-ci ne fait pas exception. Hélène Romano, Mano, si vous avez encore quelques minutes, je vous propose de rester en ligne avec nous. Vous voulez bien?
Bien sûr.
Pour écouter la chronique de notre amie Nicole Skinazi-Teboul, qui est psy aussi, et qui chaque semaine nous propose une chronique sur l'histoire d'un mot. Et aujourd'hui, elle n'a pas pu faire de choix, Nicole. Elle a opté de parler des trois mots de votre sous-titre. Bonjour, Nicole.
Bonjour, Patricia.
Hélène est en ligne et elle vous écoute.
Bonjour.
Allez, nous vous écoutons,
Donc,
Nicole.
Je vais vous parler des trois mots du titre du livre d'Hélène Romano, séparation, deuil, attentat. La séparation est un nom féminin, c'est le fait ou l'action de séparer ou de se séparer. C'est aussi le résultat de cette action. La séparation peut être discrimination, ségrégation, distinction ou discontinuité. Il y a une ligne de séparation à la surface des eaux ou à l'intérieur des cristaux, entre l'huile et l'eau, entre le tronc et l'écorce ou entre les étages d'une fusée. Il y a des séparations dans les groupes ou les assemblées, entre des conjoints ou des amis, des séparations de fait ou de droit, des séparations dans le domaine des idées politiques ou philosophiques. On peut aussi citer la séparation de l'Église et de l'État ou la séparation des pouvoirs judiciaires, législatifs et exécutifs. Les séparations peuvent être douloureuses, imminentes, imprévues, inévitables, irrévocables, momentanées, passagères, cruelles, brusques, longues ou courtes. Le terme séparation est emprunté au latin separatio, formé sur le supin separatum, issu de separare. Separare est formé du suffixe se, qui marque la séparation, et parare, qui signifie préparer, arranger. Deuil. Deuil est un nom féminin, c'est la douleur, l'affliction profonde, ou la tristesse éprouvée suite à la perte de quelqu'un, ou celle causée par un départ ou une rupture. Ce sont les marques de cette douleur exprimées par les cérémonies ou les vêtements. Faire son deuil, c'est renoncer à la présence perdue, c'est admettre la perte. Le terme deuil est issu du latin dolus, qui signifie douleur. La forme deuil est une réflexion de l'ancien français duel, qui a pour pluriel dueus, sur le modèle deuil slash yeux. L'hypothèse du rattachement au latin dolium, qui signifie chagrin, ne rend pas exactement compte des formes de l'ancien français et ne peut pas être attestée.
Nicole, si vous permettez, je voudrais juste faire une petite parenthèse parce que j'avais relevé une phrase dans le livre d'Hélène Romano au sujet du deuil. Elle dit, oui. Vous dites, Hélène, le deuil n'est pas l'oubli, il est la mise en mémoire de celui qui n'est plus là. Sur le chemin du chagrin, les parents apprennent ainsi à apprivoiser cette absence de leur enfant et à construire une autre présence de celui-ci dans leur vie. J'ai trouvé que ces deux phrases étaient très justes et très vraies.
Exactement. Donc maintenant, le mot attentat, c'est un nom masculin. L'attentat est une entreprise criminelle perpétrée contre une personne ou contre une communauté dans un contexte politique sur des biens matériels, des objets, une propriété ou contre soi-même avec le suicide. L'attentat heurte les droits et les principes inscrits dans la loi. Il y a des attentats au droit, au bon goût, mais aussi à la sûreté de l'État, à la liberté, à la pudeur ou aux mœurs. Attentat est issu du latin attentatum ou attentatum, qui est le participe passé neutre du verbe attentare, qui signifie attaquer quelqu'un ou entreprendre quelque chose contre quelqu'un. Qu'en est-il du livre d'Hélène Romano, Quand la vie fait mal aux enfants, séparation, deuil, attentat? Séparation, deuil, attentat, tous ces traumatismes font mal aux enfants et les laissent incrédules et blessés. Je les nomme fractures de vie. Elles sont inoubliables et irréparables. Mais en tant que thérapeute, elle se tient attentive, bienveillante et à hauteur d'enfant pour en entendre la mise en mots et en récit, en décrypter les images et les conséquences, en apaiser la violence et la dévastation intime. Hélène Romano peut ainsi donner sens à ce qui a été subi et permettre que chaque enfant se renforce de ses fêlures et augmente son endurance à vivre. Les trois mots du titre sont inséparables. La séparation est dans le deuil et dans les attentats qui sont l'exception de nos temps troublés. Le deuil est dans les séparations et les attentats, déflagrations symboliques ou réelles sur les vies innocentes, ruptures impossibles ou nécessaires. Les mots se répondent et s'emboîtent comme des poupées russes. Ils appellent d'autres mots, ceux du soin qui sont la puissance apaisante de ce beau livre. Ils sont les échos de cette leçon de vie que nous pouvons tous entendre et sur laquelle nous pouvons tous nous appuyer.
Magnifique, Nicole. Hélène Romano.
Oui, merci. Oui, alors merci beaucoup à Nicole et j'ai une pensée toute particulière pour Rodi Jacob et Marie-Lorraine Collat qui m'ont accompagnée dans le livre, en tout cas qui m'ont, Odile m'avait rencontrée pour me demander un ouvrage pour parler des choses très compliquées dont on a beaucoup de mal à parler. Et elle a eu l'énergie, le courage, parce que je pense qu'il en faut dans le contexte actuel de me faire confiance pour sortir ce livre-là, parce que les sujets, en effet, le sous-titre, ça peut faire peur.
Bien sûr.
Et il y a des personnes qui disent non, on n'en parle pas, on fait l'autruche, on n'en parle pas. Alors qu'on sait à quel point les gens sont en souffrance par rapport à ça, et vous avez raison sur les trois, et c'est Odile qui a, Jacob qui a mis les trois sous-titres. Après ma proposition, on a passé beaucoup de temps à choisir le titre, parce qu'au début j'avais pensé de l'art de raccommoder les fractures de vie, mais ça parlait pas assez.
Ah oui,
mais c'était cette notion d'art, c'est-à-dire qu'en effet, comme vous l'avez dit, pour chaque enfant, il faut s'ajuster. Donc j'ai une pensée particulière pour Odile Jacob, là. Merci de sa confiance, parce que c'est beaucoup de confiance et puis du courage pour accepter de publier un ouvrage sur ce thème-là, dans un contexte où on en parle beaucoup, mais on ne donne pas les ressources aux parents pour en parler.
C'est ça.
C'est vraiment ça.
Et ce livre est précieux parce que c'est un véritable outil. D'abord, un sujet de réflexion, évidemment. Ça va faire échanger et discuter les parents, les enfants. Et surtout, alors ce ne sont pas vraiment des conseils, mais des pistes que vous nous offrez.
L'objectif, moi, dans mon travail, j'essaie toujours de co-construire, d'être dans ce lien-là. On part de l'autre. L'idée, c'est ça fait 25 ans que je travaille auprès d'enfants blessés par des petits traumas et des grands traumas. Mais en effet, autour d'enfants, il n'y a pas de petits.
Non, c'est vrai.
Voilà ce que les enfants disent. Voilà comment moi j'ai pu les aider. Voilà ce que les parents disent. Voilà ce qui a pu les aider. Après, chacun s'approprie. Chacun va faire en fonction de ses ressources. Parce que chacun est acteur de sa vie. Et l'objectif, il est aussi là, c'est de se dire que chacun est responsable acteur de sa vie et que dans ce lien de résilience individuelle et collective, on a tous notre part de responsabilité, petite part par petite part, qu'on arrive à faire ce maillage rassurant qui permet de refaire du lien quand il y a une fracture et de refaire du lien quand la vie a été blessante.
Ben, je vous propose de terminer sur ce point positif, Hélène Romano. Merci à vous, j'ai eu vraiment un immense plaisir à vous recevoir. C'est un grand privilège pour nous aujourd'hui sur Radio Judaïque à Lyon de vous avoir eu.
Moi aussi.
C'est très gentil. Merci et puis beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de vous réentendre et de vous réécouter parce que vos avis nous font du bien. Merci infiniment. Merci à vous, Nicole.
Pour l'invitation.
C'est très
merci
gentil. À et à la semaine prochaine, Nicole. À très bientôt, Hélène. Merci beaucoup.
Merci.
Quand la vie fait mal aux enfants, je vous rappelle, séparation, deuil, attentat d'Hélène Romano aux éditions Odile Jacob. Entre vous et moi, si vous nous rejoignez, c'est la suite de notre émission. J'espère que vous avez apprécié l'interview d'Hélène Romano, qui est absolument formidable, une psychologue et psychoclinicienne tout à fait remarquable et qui donne des pistes de réflexion et des conseils, entre guillemets. Quand la vie fait mal aux enfants, séparation, deuil et attentat, je vous rappelle le titre de son ouvrage paru aux éditions Odile Jacob, que je ne saurais trop que vous recommander. Voilà, on va passer sans transition à un tout autre sujet. Quoique, le titre de juste parmi les nations est décerné au nom de l'État d'Israël par le mémorial Yad Vashem. Il honore, vous le savez, les personnes qui, au péril de leur propre vie et celle de leurs proches, ont sauvé des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Dans notre région, des cérémonies de remise de médailles ont eu lieu au cours des dernières années. Et ce dimanche 21 janvier à 10h30 au Centre Berthelot, se déroulera une cérémonie sous la présidence d'honneur du maire, Monsieur Kepenekian, de son adjoint en charge du patrimoine et de la mémoire, Jean-Dominique Durand, d'Ariel Krief, notre ami Ariel Krief, délégué régional du comité français pour Yad Vashem, qui accomplit un travail formidable. Et au cours de cette cérémonie, c'est Ido Brombert, directeur des relations publiques auprès de l'ambassade d'Israël en France, qui remettra à titre posthume la médaille et le diplôme de juste à monsieur Albert Émile Routier, en fait à ses enfants, puisque monsieur Albert Routier est décédé. Près des enfants de monsieur Routier, les enfants des personnes sauvées, et en particulier Monsieur Jacques Assouline, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, et Rose, sa sœur, qui est également en studio aujourd'hui. Tous deux sont dans le studio Raphaël aujourd'hui, et je les en remercie. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Vous êtes Jacques Assouline, le fils du rabbin Benjamin Assouline et de Madame Sarah née Semelman. Ma première question est toute simple. Dans quelles circonstances Monsieur Albert Routier, consul de Turquie, à Lyon, a-t-il sauvé et protégé vos parents durant la Deuxième Guerre mondiale?
Vous avez oublié de dire que nous sommes venus spécialement de Jérusalem.
Mais j'allais le dire.
Ah, d'accord.
Bien sûr, j'allais le dire.
D'accord.
On est ravis de vous accueillir.
Voilà, merci. Écoutez, c'est par le biais de mon oncle David Zemelman. David Zemelman était le frère de ma mère. Et ils ont donc connu Albert Routier, qui leur a fourni des faux papiers, des vrais faux papiers turcs, en 1942.
En 1942.
Oui, et il a fourni à toute la famille, c'est-à-dire à mon grand-père, ma grand-mère, et à mes oncles, à mes tantes.
Et c'est ainsi qu'il a pu leur permettre de traverser cette période terrible de la guerre.
Il leur a permis
d'échapper à la déportation.
Oui. Ce qu'il a fait de magnifique, c'est qu'il a fait des vrais faux traductions d'état civil, et ça a permis d'établir au nom de mes parents et d'établir des cartes d'alimentation et de réfugiés.
Je voulais qu'on s'attarde un petit moment, Rose et Jacques, sur le parcours de vos parents, qui sont bien connus dans la communauté régionale. Votre papa Benjamin et votre maman Sarah, lui né à Constantine, une ville qui est chère à mon cœur, fils de Jacob Assouline, et votre maman Sarah Semelman, née à Karlsruhe en Allemagne.
Exact.
Comment se sont-ils rencontrés?
Eh bien, ils se sont rencontrés, mon grand-père Arié Zemelman a fui l'Allemagne en 1933 à la montée de Hitler parce que la police, la Gestapo l'avait convoqué pour, comme c'était un réfugié russe, et ils l'ont convoqué, et mon grand-père en une nuit, c'était un grand industriel, il a fait ses bagages, ils sont partis, ils sont arrivés à Strasbourg. de Strasbourg, quand Strasbourg a été évacué, ils sont arrivés à Lyon en 39. Et mon père, de Constantine, il devait effectuer son service militaire dans les chasseurs alpins à Lyon. Et ils se sont rencontrés au Quai Tilsit. Voilà. En 1938.
En 38.
Oui. Et donc, mon père était hébergé chez votre parent, monsieur Fitoussi. Oui. Et monsieur Azoulay, qui habitait à la rue Mercière, dans le même immeuble.
C'est incroyable. Voilà. Et le rabbin Azoulay a bien sûr laissé ici, dans notre communauté, une empreinte indélébile. On se souvient avec respect et avec admiration de votre papa, Benjamin Azoulay. Hein.
Et oui, depuis. Donc, il a été, en 38 déjà, il avait déjà officié dans la communauté séfarade. Et quand il s'est, donc il a été fait prisonnier, il s'est évadé d'Allemagne, ils se sont mariés, mes parents sont mariés en 41, ma sœur est née en 42, moi je suis née en 44.
Et j'ai encore un frère.
Et donc, sur mes faux papiers, je vais vous raconter une anecdote, c'est véridique, sur mes faux papiers, sur les papiers turcs, je suis né un 13 avril. Oui. Et à la libération, quand mon père, c'est en 44, quand au mois de septembre, le 23 septembre, il a voulu me déclarer, mais l'employé de la mairie a dit, monsieur, vous risquez la prison. Mon père, il a dit, pourquoi? Parce qu'il faut déclarer les enfants 3 jours après la naissance. Alors donc, on m'a déclaré le 23 septembre, et entre mon frère David, et moi-même, nous avons que 6 mois de différence.
Ah oui, d'accord.
On s'en est jamais rendu compte parce qu'il est né en 45.
D'accord. Voilà. Alors, c'est en 1944 que votre papa, Benjamin, prend le poste de rabbin de la communauté, le CIS, Neve Shalom.
Neve Shalom. Montesquieu.
Montesquieu à l'époque. Voilà. Oui, effectivement. Actuellement, Neve Shalom. C'est vrai, oui. Vous avez raison. Il va engager, une œuvre considérable puisqu'il va restructurer le Talmud Torah, redonner vie à cette synagogue de la rue Montesquieu. Et il va également, je pense que nos auditeurs seront intéressés de l'apprendre ou de le savoir, il va créer le bulletin La Voix Séfarade qui existe toujours aujourd'hui et qui fait le bonheur des fidèles de Neve Shalom, mais pas seulement.
Écoutez, il a encore fait mieux, parce que vous ne savez pas, c'est en 44, de 44 jusqu'à la publication de La Voix Séfarade, il a publié tous les mois... un petit fascicule, ouais. De 3 ou 4 pages. Il y avait toutes les données de la communauté. C'était un vrai disque enregistreur de la communauté. J'étais le seul à détenir tous les numéros. J'en ai fait, notre amie Sylvie Altar.
Oui, donc, historienne.
Historienne, mmh. Que j'ai rencontrée, ouais. Vraiment d'une manière particulière. Donc je lui ai permis de tout photographier. Donc elle va s'en servir. Ouais. Il y a toute la communauté turque dans ces fascicules.
Toute l'histoire de la communauté. C'est formidable.
Voilà.
C'est précieux, hein. Vous avez bien eu raison de garder, oui. Tous ces documents et bien sûr, ils sont dans de bonnes mains, dans les mains de Sylvie Altar.
Ce n'est pas moi qui les ai gardés, c'est mon père qui les a transmis.
Voilà. D'accord. Et donc, il va œuvrer pendant 27 ans à la tête de la communauté avant de réaliser son rêve, son alia. Oui. Il va donc monter en Israël en 1971. Et il va, être rabbin dans un moshav,
oui.
À Beit Uziel, c'est ça,
exact.
De 72 à 79, et en 79, c'est l'heure de la retraite bien méritée. Mais pour autant, il n'arrête pas, hein. Il est toujours très actif, hein, votre papa.
Il était très demandé, très, oui. Très demandé, donc il participait à toutes les cérémonies religieuses de francophones, et surtout, oui. De lyonnais.
Bien sûr.
Et ce que je veux vous dire, c'est que pour restructurer la communauté, je me rappelle, c'était un travail harassant, parce que je ne me rappelle pas qu'il ait pris un jour de vacances. Un jour de vacances, parce qu'il voulait toujours que le minyan y soit. Hein.
Oui. Jusqu'au bout, il a été fidèle à sa communauté, fidèle à ses fidèles, on pourrait dire. Et je sens beaucoup d'émotion, oui. Dans votre voix, monsieur Asseline, et je la comprends et je la partage. Je voudrais également, si vous me permettez, dire un mot sur son action aussi auprès d'une association qui est là aussi chère à mon cœur, c'est l'Atride.
Ah, exactement.
L'Atride, cette association dont s'occupe à Lyon aujourd'hui Marcel Cohen, dont s'occupait Robert Drey, mon beau-père, qui permet à des enfants enfants issus de familles défavorisées ou nécessiteuses de célébrer la bat et la bar mitzvah.
La bat mitzvah, oui.
Voilà, dans des conditions dignes à Jérusalem. Et c'est une magnifique association, la Trid, qui a plus de 40 ans. Et je voudrais ici saluer la mémoire de notre ami et de notre cousin Jacques Hydré, qui vient de nous quitter malheureusement et qui a œuvré inlassablement au bénéfice de ses enfants au sein de la Trid. Et votre papa, Rose et Jacques, étaient partie prenante de la Trid.
Oui, et c'est en vérité Jacques Hydré, de mémoire bénite.
Ah oui.
Donc, réunissait plus de 130 enfants. 130 enfants, et il leur fournissait le talet,
tout
avec le repas, et c'était magnifique, quoi. Et c'était une ambiance. Et ils allaient au cimetière, donc, sur la tombe de Rabbi Yitzhak Dre, donc ils allaient en procession.
Ouais.
Et
bon, un grand moment.
Ça commençait le matin à la grande synagogue, et puis ça continuait au cimetière, et après. Et après, donc, il y avait un repas de gala. Voilà. Et mon père était toujours partie prenante. Mais je ne savais pas que Marcel Cohen, il est revenu à Lyon.
Marcel est à Lyon, est toujours à Lyon.
Je lui passe un grand bonjour.
J'espère qu'il nous écoute.
Et parce que je ne savais pas, je l'avais vu à Jérusalem. Mais je croyais qu'il habitait Jérusalem.
Non, Marcel est toujours à Lyon, enfin à ma connaissance, hein, puisque je l'ai eu encore en ligne il y a quelques jours, quelques temps. Marcel qui a repris, bien sûr, le flambeau, qui a travaillé aux côtés de Jacques Hydré, bien sûr, qui était à Jérusalem. Marcel était le relais depuis le décès de Robert Dré, mon beau-père. Et puis, bien sûr, on a coutume de dire que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et cette grande femme, c'était votre maman, Sarah Assouline.
Exact. Écoutez,
aujourd'hui même, elle nous a quittés depuis un an.
Voilà. Exactement. Et comme je dis, elle est décédée à l'âge de 99 ans.
99.
Et Dieu merci, on en a profité. Elle a profité. Et elle a laissé donc 33 arrière-petits-enfants. Voilà.
Magnifique. Vous, trois enfants, donc Rose et
David,
Jacques et qui David. Est ici, et David, et 33 petits-enfants.
Arrière-petits-enfants.
Oui. Magnifique. Et c'est que justice, finalement, que cette remise de médaille de juste soit proposée ce dimanche pour Monsieur Routier. En tout cas, à titre posthume, cette médaille sera remise à ses enfants, puisque Monsieur Routier a permis le sauvetage de vos parents, Rose et Jacques, je tenais vraiment à rendre hommage à Monsieur Routier, mais également bien sûr à vos parents qui ont laissé une empreinte indélébile. Ils ont vécu dans la discrétion, dans l'altruisme. Ils étaient sans cesse tournés vers les autres. Ils n'ont eu à cœur qu'une chose, le bien de la communauté, évidemment le bien de leur propre famille, de vos enfants, de vos petits-enfants, mais bien sûr le bien de la communauté au sens large.
Oui, et je voulais juste rajouter une chose, c'est que je pense que sans le témoignage de ma mère, parce que il faut toujours un témoin oculaire a vécu cette tragédie
pour constituer le dossier auprès d'Yad Vashem.
Oui,
hein,
c'est très 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 compliqué.
Très compliqué.
Si j'ai le temps, parce que c'est moi qui ai présenté le dossier.
Oui.
Et donc ma mère à 97 ans a donné un témoignage clair, précis de ce qui s'était passé. Et je pense que c'est ce qui a accéléré l'obtention de la médaille des justes.
On peut lui rendre hommage à votre maman aussi pour cela, parce qu'effectivement, la constitution du dossier, c'est un petit peu un parcours du combattant, même si Ariel Krief, ici dans notre région, fait un travail formidable pour aider, hein, bien sûr, les personnes.
Oui.
Et votre maman, c'est dommage, il y a un an qu'elle nous a quittés, c'est dommage, mais son souvenir sera évidemment dimanche présent lors de cette cérémonie, évidemment.
Je pense que Albert Routier, ce n'est pas une médaille qu'il mérite, c'est deux médailles.
Ouais.
Et Albert Routier, donc, je pense, aurait pris beaucoup plus de temps pour avoir la médaille des justes, parce qu'il y avait des témoignages. Mais enfin, nous avions, tous les documents d'époque pour appuyer sa demande. Pour appuyer cette demande. Et je remercie Sylvie Altar, d'avoir été le détonateur de cette
formidable
et également Jacques Elmaleh, Jacques Elmaleh, qui a fait le lien entre nos familles, parce que dans le journal d'Albert Routier, il citait souvent Zemelman. Mais il ne savait pas qui c'était Zemelman, c'est Monsieur Zemelman.
D'accord, donc,
il ne connaissait pas le lien.
Zemelman Assouline.
Et c'est Jackie qui a fait le lien. Et donc Sylvie m'a écrit un jour, j'ai reçu un mail.
D'accord.
Et donc on a fait le lien de cette manière.
Eh bien écoutez, qu'ils soient tous remerciés, voilà, ici aujourd'hui à l'antenne de Radio Judaïque à Lyon, à l'occasion de l'évocation de cette cérémonie qui aura lieu donc ce dimanche 21 janvier à 10h30. Nous serons présents par la pensée à vos côtés, Rose, oui, et Jacques Assouline, oui, et votre frère David sera présent également. Non, il n'a pas pu faire le déplacement.
Je voudrais juste lancer un petit message,
bien
vous
sûr,
prendre de votre temps. Je serai, si Dieu veut, Shabbat à Neve Shalom.
Oui.
Donc, je voudrais bien rencontrer. Ça fait 50 ans qu'on a quitté Lyon, mais s'il y a des amis,
ah oui,
s'il y a des amis qui viennent,
qui viennent à Neve Shalom ce Shabbat,
ça me fera un grand plaisir de les rencontrer.
Parce que vous n'avez pas l'occasion de venir souvent à Lyon. Vous ne revenez pas régulièrement.
Non,
donc là, c'est une occasion unique.
Une occasion unique. Voilà.
D'accord.
Voilà.
Alors l'appel est lancé. Tous les fidèles de l'ancienne synagogue Montesquieu de Neve Shalom, toutes les personnes que vous avez côtoyées au sein de notre belle communauté de Neve Shalom, sont appelés à se rendre ce Shabbat à la synagogue. Voilà. Aussi pour avoir le plaisir de vous rencontrer.
Ouais,
nous, absolument.
Nous nous sommes quittés quand on était jeunes, mais on est tous grand-père, grand-mère. On a beaucoup de choses à se raconter.
Oui, certainement. Voilà. Rose, vous n'avez pas souhaité vous exprimer, je le respecte tout à fait, mais vous étiez présente dans le studio, Raphaël, pour évoquer cette cérémonie, évoquer le parcours de vos chers parents. Merci à vous, Rose. Merci beaucoup, Jacques. Ouais. Et je terminerai en remerciant également notre ami Joseph Abellan, qui a rendu possible cette interview et cette rencontre d'aujourd'hui. Vraiment, je lui en suis extrêmement reconnaissante.
Un grand ami
de notre communauté. Et je suis ravie de vous avoir accueilli pour évoquer Constantine aussi, et notre belle communauté. Merci à vous tous. Juste un petit rappel, la conférence de Gilles Bernheim, on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, donc c'est le 25 janvier. Et puis la nuit de la théologie à la Villa Gilet, ce sera le jeudi 25 janvier à partir de 18h30 jusqu'à minuit à l'institution des Chartreux. Une nuit pour penser les trois monothéismes à travers des questions essentielles. Et je pense que nous aurons l'occasion d'en parler avec Guy Walter, le directeur de la Villa Gilet, la semaine prochaine. Soyez fidèles à notre rendez-vous. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne fin de semaine. Portez-vous bien et à la semaine prochaine avec mes collégiennes de Beth Menachem. Au revoir à tous.